Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'édition et la retouche d'images, le dessin vectoriel avec les logiciels libres GIMP et Inkscape, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Véronique Bonnet, à quoi sert le logiciel libre, et aussi la chronique de Vincent Calame, le bug qui envoie la case prison. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 19 avril 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Derrière mon micro, je suis Fred Accouchet, délégué général de l'April. De l'autre côté de la vitre, il se prépare pour un prochain quinquennat. C'est mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors je parle d'un quinquennat, mais évidemment son prochain quinquennat d'animateur et réalisateur radio. Car notre émission Libre à vous est diffusée en direct depuis mai 2018 sur Radio Cause Commune. Et l'autorisation de diffusion de la radio vient d'être reconduite pour une durée de 5 ans à compter du 25 octobre 2022. Bravo à toute l'équipe de la radio, aux autres animateurs et animatrices de la radio, et surtout merci à vous de nous écouter.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique s'intitule « Partager est bon » et Véronique nous propose une lecture philosophique du logiciel libre. La chronique a été enregistrée récemment et s'intitule « À quoi sert le logiciel libre ?» On se retrouve en direct dans 10 minutes.
Alors, nous avons le plaisir de recevoir Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, pour sa chronique « Partager est bon ». Dans cette chronique, Véronique nous propose une lecture philosophique du logiciel libre. Le thème de la chronique du jour, à quoi sert le logiciel libre ? Une réflexion sur avoir et être.
Alors en effet, bonjour Fred. Lorsque je m'interroge sur ce qui a fait qu'à un moment, ayant découvert le logiciel libre, j'ai décidé de diffuser ses principes, j'ai décidé de réfléchir à sa structure, à sa finalité. À quoi sert le logiciel libre ? Je suis renvoyée assez souvent à la différence entre avoir, posséder, accéder à un maximum de gains et tout ce que le logiciel libre apporte en matière d'être, en matière d'existence. Et c'est vrai que lors des tables rondes, des conférences, des journées de sensibilisation, il est assez souvent demandé ce que le logiciel libre peut apporter par rapport à l'informatique propriétaire. Alors c'est vrai que le logiciel libre et le logiciel non libre sert d'une façon technique à des opérations qui sont assez analogues. Mais alors quelle différence ? Si on a à choisir, qu'est-ce qu'on y gagne ? Est-ce qu'on a plus de résultats ? Est-ce qu'on s'approprie davantage d'éléments ? Est-ce qu'on y est nécessairement toujours gagnant ? Est-ce que le logiciel libre est plus compétitif ? Est-ce qu'il permet de faire la différence ? Si on pose la question ainsi, il me semble qu'on manque le véritable sujet. Si on se demande ce que le logiciel libre permet d'avoir. Il me semble que là, on tourne en rond. On dit qu'on a le meilleur sans se faire avoir, qu'on cherche des solutions sécurisées, optimisées, certes. Mais le logiciel libre ne concerne pas simplement l'avoir. Si on compare les performances respectives de l'informatique libre et de l'informatique propriétaire, ce qui est concevable, on risque d'oublier que le logiciel libre est une manière spécifique d'être, d'exister. Pas seulement une occasion d'avoir plus ou mieux. Alors, je voudrais me référer ici à un article très intéressant qui a été publié dans Le Monde diplomatique de janvier, sous la plume de Matthew O'Neill, de Laure Muselli, Fred Paillet et Stefano Zaccheroli. Le titre, le pillage de la communauté des logiciels libres. Et avant ce titre, il y a un avant-titre, que faire pour contrer la prédation des géants du numérique. Alors, je relève les deux termes clés, pillage, prédation. Ces deux termes-là laissent entendre que la cible est un trésor, un ensemble de réalisations désirables que les libristes voudraient se réserver et que les GAFAM voudraient prendre. Mais les auteurs prennent soin de montrer que le véritable enjeu, au-delà de l'avoir, concerne les principes, c'est-à-dire la charge existentielle du choix du libre. Je résume la teneur de l'article. Comme la plateforme de développement collaboratif GitHub a été rachetée en 2018 par Microsoft, alors qu'elle était initialement destinée à stocker du code libre, faut-il raisonner en termes de perte pour les libristes, de gain pour ceux qui ne le sont pas ? Certes, les auteurs évoquent une récupération, un siphonnage de l'énergie créative, de la patience, du sens de l'autre, qu'ont mis les programmeurs du libre, c'est-à-dire une captation de travaux universitaires, de réalisations sous copyleft, gauche d'auteur, qui semblent réduire à néant le choix de ceux qui ont voulu rendre disponible à tous le code source de leur réalisation. Et alors, des morceaux de code libre se trouvent ainsi utilisés dans l'informatique propriétaire qui se nourrit de ce qui n'est pas elle, de ce qui voulait lui échapper. Or, et les quatre auteurs le disent très tôt dans leur texte, un logiciel libre permet des bénéfices non financiers. Plaisir, apprentissage, réputation, offre d'emploi. Autrement dit, le logiciel libre ne sert pas simplement à avoir des résultats, à avoir prise sur des opérations, alors que le logiciel propriétaire est seulement dans une recherche de rentabilité, de bénéfices financiers, en monnayant le travail des bénévoles. Le logiciel libre concerne l'être, de celui qui se projette dans le monde en sympathie avec les autres. À tel point, disent les quatre auteurs, que l'informatique propriétaire qui manque cette dimension a besoin de faire semblant de l'avoir et abuse de lexique de la communauté, collaboration, ouverture. C'est-à-dire que ceux qui captent, ceux qui pillent, ont besoin de cacher leur obsession d'avoir, d'avoir toujours plus. Et là, on peut retrouver un clivage cher à Jacques Lacan, qui est un philosophe, psychanalyste, continuateur de Freud. Il fait la différence entre désirer et aimer. Désirer, c'est l'avidité de la possession, l'obsession de l'avoir et avoir encore. L'informatique propriétaire désire. Toujours plus, elle veut s'approprier encore davantage. Alors qu'aimer, c'est la construction d'être, la construction de son être propre, en écho avec l'être des autres, par des paroles, par des réalisations adressées aux autres. Exister véritablement, c'est coexister et non pas exploiter. Et il me semble que à l'April, qui est notre association, en effet, il y a ce plaisir de montrer ce qu'on croit avoir réussi, de s'inspirer de ce que les autres ont réussi, d'avancer ensemble toujours. Et pour répondre à la question qui était la mienne au tout début de cette chronique, il me semble que j'ai trouvé pourquoi c'était le logiciel libre qui s'imposait à moi.
Bah écoute, merci Véronique pour cette belle chronique qui pousse à réfléchir. Je mettrai le lien vers l'article du Monde Diplomatique dont tu as parlé. Je ne sais pas s'il est disponible en ligne complètement, mais on vérifiera. Peut-être que tu le sais.
Il me semble que j'ai vu qu'il était disponible simplement pour moitié en ligne pour l'instant.
D'accord, bah écoute, peut-être qu'au bout d'un certain temps, il sera disponible en ligne. Ou sinon, on contactera les personnes qui ont rédigé cet article et, pour le mettre en ligne et qu'il soit consultable par tout le monde. Ben, en tout cas, je te remercie pour cette belle chronique. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose ?
Il me semble que ce vol, cette captation, pourra éventuellement faire main basse sur des lignes de code, sur des objets, sur des ouvrages, mais pas sur l'esprit du logiciel libre.
Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que cette captation ne pourra pas capter notamment les personnes et ce qu'elles ont dans leur cœur. Donc c'était la chronique Partager est bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Dans sa chronique mensuelle, Véronique propose une lecture philosophique du logiciel libre. Le thème de la chronique d'aujourd'hui, c'était « À quoi sert le logiciel libre ? Une réflexion sur avoir et être ». Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
Très belle fin de journée à toi, Fred.
Donc la chronique a été enregistrée il y a quelques semaines et l'article du Monde Diplomatique est disponible en ligne. Vous retrouverez la référence sur le site libreavoue.org. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons d'édition et de retouche d'images, de dessin vectoriel avec les logiciels libres GIMP et Inkscape, et on parlera aussi de la vie de ces projets. Mais en attendant, nous allons écouter Shine par Liquid. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Shine par Liquid, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. J'espère que vous avez apprécié ce morceau légèrement dansant, en tout cas moi j'ai apprécié.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'édition et la retouche d'images, le dessin vectoriel avec les logiciels GIMP et Inkscape, mais également la vie des projets. Alors nos invités, Marc Jean Bougin, ingénieur de recherche à Télécom Paris et contributeur au projet Inkscape. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et à distance, Jean Pagès, développeur principal de GIMP et bénévole associatif Lila et The Marmotte, dont on parlera tout à l'heure. Bonjour Jean.
Bonjour.
Super, tout le monde est là, donc ça marche très bien, sachant que pour vous donner un petit peu les coulisses de l'émission, nous avons réglé le problème technique à 15h29 minutes et quelques secondes. Donc on va parler, le sujet va être un petit peu découpé en deux parties, en tout cas peut-être pas forcément égales, mais en tout cas une première partie où on va parler un petit peu des logiciels, de ce qu'ils font pour que les personnes qui nous écoutent découvrent ces deux logiciels. Et on va aussi parler de la vie des projets, parce qu'évidemment dans le monde du logiciel libre, il y a une vie de projet, il y a une gouvernance, il y a des questions de financement. Donc voilà un petit peu les deux grandes thématiques, mais une première question déjà, une présentation personnelle. Je vais vous demander simplement de vous présenter de façon succincte. On va commencer par Géant.
Oui, bonjour encore. Alors bon, donc je m'appelle Jean, je suis le développeur principal de GIMP, le mainteneur même depuis un an. Voilà, alors donc je fais ça dans le cadre, comme GIMP est un logiciel communautaire, le développement c'est volontaire. Et donc moi c'est dans le cadre d'un projet de film d'animation dans une production associative qui s'appelle Lila. Et dans ce contexte-là, on fait un film et moi je fais la partie logiciel, développement. Donc j'améliore GIMP, je le rends stable, donc je corrige les bugs et puis j'ajoute des fonctionnalités aux besoins, etc. Voilà, c'est moi en tout cas en rapport avec GIMP.
D'accord. On va rentrer dans le détail de tes contributions évidemment dans le cours de l'émission. Marc Jean Bougin.
Bah moi je suis employé je suis ingénieur de recherche à Télécom Paris, qui est une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay, qui est spécialisée dans les questions du numérique. Et j'étais déjà engagé depuis assez longtemps dans le projet Inkscape, et là je suis engagé notamment parce que mon employeur me permet de passer une partie de mon temps sur le projet Inkscape, partie de mon temps de travail, ce qui est assez pratique. Et donc dans le projet, un petit peu comme Géant, je m'occupe de pas mal de questions de code, de bugs, de review et d'animation de la communauté. Notamment, j'essaye de gérer notamment les releases du logiciel, donc les sorties du logiciel. Des différentes versions, on va probablement en reparler. Et plutôt spécialisé dans les questions autour du développement lui-même, des questions de code, parce qu'on a plusieurs équipes qui s'occupent de différentes choses, on y reviendra.
Voilà. D'accord. Ok, écoutez, merci tous les deux. Donc on va commencer déjà par une... on va parler un petit peu de ce que font ces logiciels, parce que les personnes qui nous écoutent ne les connaissent pas forcément, hein, donc deux logiciels qui ont des fonctionnalités différentes. Alors une première question générale, d'essayer de présenter dans les grandes lignes les principales fonctionnalités de ces deux logiciels. On va commencer par GIMP avec Géant.
Oui, alors donc GIMP c'est ce qu'on appelle un logiciel de graphisme raster ou bitmap, donc ce sera vous pouvez voir avec Inkscape c'est différent, Inkscape c'est vectoriel, donc BIM c'est tout est des matrices de pixels, et donc c'est dans ce contexte de, alors en gros c'est similaire à Photoshop, c'est pas un clone hein, comme certains nous le disent, c'est pas le but, mais c'est dans la même catégorie, c'est donc on modifie, alors ce qui fait que c'est beaucoup utilisé par les photographes par exemple, parce qu'en photographie on travaille avec des pixels, on travaille avec ensuite dans l'illustration aussi, puisque on fait aussi de l'illustration raster. Alors il y a certains qui font de l'illustration avec plutôt type vectoriel, surtout si c'est des trucs plus simples, mais ce qui va plus se rapprocher, on va dire, d'un style physique, ce sera ce type de logiciel. Voilà.
D'accord. Alors Marc, sur Inkscape, pareil, les grandes fonctionnalités.
Bah du coup Inkscape, donc contrairement à GIMP, c'est plutôt un éditeur vectoriel, ce qui veut dire que en fait la différence avec les images qui sont comme les photos composées de pixels, c'est qu'une image vectorielle en fait elle est définie à partir de courbes et de définitions mathématiques. Par exemple un cercle, c'est pas l'ensemble des pixels qu'il y a sur le cercle, c'est défini par un centre et un rayon, et du coup ça permet d'avoir un résultat qui ne dépend pas du zoom qu'on a sur l'image. Et donc Inkscape c'est un logiciel qui est centré autour de ça.
D'accord. Alors, j'ai juste précisé, parce que ça, j'ai oublié, que vous pouvez participer à cette conversation pour réagir et poser des questions sur le salon web de la radio. Vous allez tout simplement sur causecommune.fm, bouton de chat, et salon libre à vous. Vous allez sur le site libreavoue.org. Je le précise parce qu'en fait, Marc vient de me mettre un message sur un autre salon, donc je surveille plusieurs salons à la fois. En tout cas, n'hésitez pas à participer. Alors, avant de rentrer peut-être un peu plus en détail sur les usages, une première question qui peut peut-être intéresser les personnes, est-ce que ces logiciels sont multiplateformes? C'est-à-dire, est-ce que ces logiciels sont disponibles sur à peu près toute plateforme, c'est-à-dire système d'exploitation libre, Microsoft Windows, macOS, Marc pour Inkscape.
Oui, alors toutes les distributions Linux package Inkscape, pour autant que je sache, à part celle pour l'embarquer. On a aussi du coup des installateurs pour Windows, et il y a aussi un volontaire en Allemagne qui nous prépare des installateurs pour macOS.
D'accord.
Donc ça tourne pas sur les tablettes spécifiquement, mais tout ce qui est ordinateur, ça fait tourner.
D'accord. Et côté GIMP, géant ?
C'est pareil, on est absolument partout, même des systèmes d'exploitation dont personne n'a jamais entendu parler. On entend dire que j'arrive plus à retrouver le nom, il y a un truc il n'y a pas longtemps où ils ont compilé GIMP pour ça. Enfin bon. Donc c'est assez similaire à Inkscape, on est absolument partout, quelle que soit la plateforme ou l'architecture même.
D'accord. Alors dans la suite de l'émission, on reviendra sur la partie logiciel libre. Hein, pour l'instant, on va rester sur la partie logiciel. Alors finalement, les gens peut-être connaissent effectivement au moins deux noms, ont déjà utilisé Photoshop. En dessin vectoriel, en logiciel privateur, qu'est-ce qui existe d'ailleurs, Marc ?
C'est plutôt une alternative à Adobe Illustrator ou CorelDRAW.
CorelDRAW, d'accord. Pour quel type d'usage, en fait, intuitivement, j'aurais tendance à penser, ou en tout cas historiquement, peut-être que GIMP, c'était de la retouche de photos, etc. Quels sont les types d'usages les plus répandus pour ces deux logiciels ? Peut-être commencer par GIMP avec Géant ?
Oui, alors pour GIMP, c'est la photo, hein, ça c'est évident. Ensuite, en illustration, quand on veut... On peut utiliser Inkscape selon ou GIMP. En fait, c'est quand on veut quelque chose, un dessin dessiné plus librement, on va dire. Inkscape, c'est comme c'est... Alors, je c'est pas non plus mathématique. Les gens n'ont pas besoin de faire des équations, hein, mais c'est tout. C'est des courbes, c'est des courbes plus parfaites, etc. Et GIMP, c'est plus, c'est vraiment un peu comme quand on dessine physiquement. Donc c'est ce genre d'illustration. Voilà. Ensuite, même en designer, on va plutôt utiliser Inkscape, mais souvent quand des fois on dessine des trucs, des petits logos, je sais pas quoi. On va le faire d'abord sur GIMP pour que ce soit facile, et après, une fois qu'on a l'idée bien, on va le redessiner sur Inkscape pour qu'il soit plus... Donc en fait, ils sont très... D'ailleurs, nous, on utilise beaucoup Inkscape. Hein. On développe GIMP, mais on utilise beaucoup Inkscape. Donc donc GIMP, en tout cas, c'est plus la partie... on se pose moins de questions sur les courbes et sur...
D'accord. Donc c'est des logiciels complémentaires. Donc côté Inkscape, Marc.
Inkscape, c'est assez utilisé pour des histoires de graphisme, et en particulier pour ce qui est des affiches ou des choses qui ont besoin de pouvoir être scalées, enfin redimensionnées sur de grandes échelles, et donc en particulier aussi pour les logos où c'est très important. Mais c'est aussi utilisé pour quelques usages qui vont vers des imprimantes, par exemple les illustrations scientifiques, c'est souvent fait avec Inkscape. Et il y a aussi la communauté des Fab Labs qui utilise beaucoup Inkscape pour diriger les machines à commande numérique comme les découpeuses laser ou autres.
Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est qu'un Fab Lab en une phrase ou deux ?
Un Fab Lab, c'est un endroit où vous pouvez utiliser des machines-outils dirigées par ordinateur globalement pour faire des objets que vous voulez.
Très très bien, d'accord. Alors finalement, par rapport aux personnes qui connaîtraient en tout cas des outils donc comme Photoshop et Adobe, est-ce que finalement, en termes d'usage, de palette d'outils et d'interface, est-ce qu'elles vont s'y retrouver, ou est-ce qu'il va manquer des choses, ou est-ce qu'il y a peut-être des choses en plus? Voyez, je parle là vraiment en première approche, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît Photoshop et qui va utiliser GIMP, est-ce que finalement on va s'y retrouver, parce que c'est un peu la même logique d'interfaçage, on retrouve un petit peu les mêmes palettes d'outils, sachant que je ne connais pas du tout, enfin j'ai déjà utilisé GIMP mais très succinctement, donc géant.
Oui et non. Alors c'est pas comme on ne sait pas. Bon, parce que c'est des critiques qu'on a assez souvent. On ne cherche pas du tout à cloner l'interface. Donc on n'aura pas forcément les mêmes boutons au même endroit, les mêmes menus, il s'appellera pas forcément pareil. Mais de manière générale, les outils sont assez similaires. C'est juste que donc, ce qui fait que si on cherche à savoir, si on connaît un outil et qu'on cherche à trouver l'équivalent sur GIMP, en général, on va le trouver. Voilà. Ensuite, il y a des choses qu'il y a sur Photoshop. Hein. De toute façon, c'est aussi une grosse entreprise. Ils ont beaucoup plus de sous. Il y a des choses qui sont, surtout tout ce qui est en intelligence artificielle et de ça, ils ont pas mal de fonctionnalités, je crois, là-dessus ces dernières années, ce que j'ai compris. Où il y aura pas ça sur GIMP. Voilà. Ensuite, je sais que des fois, on entend régulièrement des gens dire, ah, mais sur Photoshop aussi, ils peuvent pas faire certaines choses qu'on fait sur GIMP. Il y a pas longtemps, quelqu'un me parlait de, Alpha to Selection ou quelque chose comme ça, je crois, ou peut-être Color to Selection. Enfin bon, il y a des choses qui sont dans l'un, qui sont pas dans l'autre. Voilà, les gens qui sont ouverts, ils nous disent souvent le mieux, c'est d'utiliser les deux et de les utiliser pour ce qu'ils font bien, parce qu'on peut faire un même projet, on peut passer d'un logiciel à l'autre.
D'accord. Avant de passer la parole à Marc sur Inkscape, je relaie une remarque et sur le salon web, quelqu'un qui nous signale un membre April d'ailleurs qui pour la première fois écoute en direct, donc je salue Michael 64000, donc je pense que c'est sa résidence, qui nous dit pour GIMP, j'essaye sans grand succès de le faire adopter par mon entourage, mais beaucoup ont été échaudés par l'affichage en plusieurs fenêtres, alors que ça fait bien longtemps qu'on peut afficher GIMP dans une fenêtre unique. Donc effectivement, peut-être que ce souvenir de multiples fenêtres pouvait rebuter les gens, ben sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez le mettre dans une fenêtre unique. Donc même question...
Depuis 2012 même. C'est depuis 2012 qu'on
ah oui, 10 ans,
le fait en fenêtre unique.
Mais alors le problème, c'est que les gens restent sur leurs premières impressions. Donc n'en restez pas sur votre première impression, laissez une chance à GIMP et Inkscape et testez-les. Donc même question pour Inkscape. D'ailleurs, je précise que Michael précise aussi que pour Inkscape, ce qui est absolument génial, ce sont les tutoriels intégrés au logiciel et basés simplement sur des fichiers. Il en faudrait davantage. Donc même question pour Marc par rapport à Inkscape, par rapport à Adobe...
Les concepts sont très similaires, c'est à peu près les mêmes concepts et beaucoup d'outils sont très similaires entre l'un et l'autre. Après, c'est pas pareil que GIMP, on vise pas à faire un clone avec les mêmes outils, les mêmes fonctionnalités exactement. Et il y a certaines manières d'utiliser le logiciel qui vont être plus efficaces dans Inkscape ou dans Illustrator, suivant qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement. Par exemple, pour Inkscape, la base, c'est les chemins, qui sont un petit peu la base du vectoriel. Et travailler avec des chemins, de ce qu'on nous dit, c'est plus simple avec Inkscape qu'avec Illustrator. Par contre, il y a beaucoup de choses que Inkscape ne sait pas faire ou qu'il y a besoin de plugins pour. Par exemple, si on vise à faire des dessins pour le print,
pour l'impression,
et que on vise à des définitions de couleurs extrêmement spécifiques et extrêmement précises, donc avec ce qu'on appelle du cyan magenta jaune noir, c'est quelque chose qui est assez difficile dans Inkscape, alors que dans Illustrator, c'est des choses qui sont intégrées parce que c'est le logiciel de référence de l'industrie. Il y a donc des petites choses comme ça qui sont des différences, sachant que Inkscape est plus basé historiquement sur les concepts de CorelDRAW que d'Illustrator, donc il y a des passages qui sont plus simples que d'autres.
Alors CorelDRAW, c'est aussi un autre logiciel privateur qui est assez ancien. Ta remarque sur l'impression me fait penser à une question. Quand on travaille avec ces logiciels, on peut travailler juste pour soi et pour peut-être des fois des versions uniquement web, mais il peut arriver qu'on travaille avec des prestataires, et notamment c'est des prestataires d'impression pour des affiches ou autres. Et effectivement, il y a un petit peu cette image, en tout cas, que quand on utilise GIMP ou Inkscape, on peut avoir des problèmes avec les prestataires, par exemple les prestataires d'impression. Est-ce que c'est toujours le cas? Toi, tu as commencé à y répondre, Marc. Est-ce qu'au niveau de GIMP, il y a ce souci-là ou pas du tout? Géant.
Je vais juste vas-y. Faire un petit commentaire, ouais, par rapport à ce qu'a dit Marc juste avant. Tu disais que c'était pas pareil que GIMP, mais justement, je disais GIMP, pour moi, c'est pareil. On cherche pas du tout à être un clone.
Si, j'ai dit c'est pareil.
Ah, t'as dit c'est pareil.
Oui, okay, je crois que c'est pareil.
Pas pareil. D'accord, voilà, parce que justement, c'est pas le but du tout. Et sinon, par rapport à l'impression, alors, il y a toujours pas de prise en charge de CMYK, donc CMJN, dans GIMP même, c'est-à-dire qu'une image, elle sera pas en 4 canaux de CMJN dans GIMP. On peut les exporter ou importer, ça commence à venir, et notamment il y a un projet là qui devrait démarrer avec quelqu'un, où il va un peu améliorer ça. Par contre, c'est les gens en général qui disent qu'il y a encore des problèmes. De nos jours, c'est faux, on a fait plein d'impressions, parce qu'il n'y a pas vraiment d'imprimeur qui se respecte, qui va vous dire absolument faire que du CMJN. Et si on a vraiment besoin, d'ailleurs, on peut aussi transférer. Nous, on utilise beaucoup Scribus, par exemple. Scribus, c'est très bien pour faire la mise en page. On peut travailler sur GIMP ou Inkscape, importer, faire la mise en page en Scribus, où on met les profils de couleurs qui correspondent en CMJN et qui permettent de faire toutes les conversions. Tous les imprimeurs de nos jours savent très bien travailler avec ça. Et de toute façon, même si on travaille entièrement en CMJN, ça ne garantit absolument pas la bonne qualité des couleurs, parce que c'est un sujet tellement compliqué, sauf oui. Si vraiment on a tout parfaitement calibré, ce qui est très rarement le cas, même chez les pros. De manière générale, on demande toujours ce qu'on appelle des hard proof. Alors, je sais plus, des preuves physiques, des preuves d'impression, preuves d'impression. Voilà. D'accord. Un imprimeur.
Ok. Toujours sur la partie, enfin, pas forcément la partie avec les prestataires, mais si je comprends bien, finalement, aujourd'hui, quelque part, autant GIMP que Inkscape peuvent s'utiliser dans un cadre professionnel. Et pas uniquement un câble, on va dire, un cadre personnel. On peut vraiment l'utiliser dans un domaine professionnel. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous avez des exemples de cas d'usage, Marc, sur Inkscape?
On connaît plusieurs studios de designers, notamment web, qui utilisent Inkscape dans un cadre professionnel et qui participent à la communauté.
D'accord.
Oui. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec Inkscape.
D'accord. Et Géant.
De même, on a régulièrement des. Bah déjà, nous, on l'utilise professionnellement pour du graphisme professionnel donc qui est rémunéré. Et ensuite, on entend régulièrement. Des fois, on a sur nos canaux de discussion. Il y a quelques mois, il y avait quelqu'un qui est venu. Ils ont dit que toute leur entreprise de graphisme, avec je sais plus combien de dizaines de designers qui sont passés sur GIMP, etc. Donc oui, il y a pas de, ça s'utilise tout à fait professionnellement. Il y a énormément d'utilisateurs.
D'accord. Une question sur la formation. Une personne qui veut, une double question en fait. Est-ce qu'il y a des prérequis de connaissances de soit de dessin vectoriel ou de graphisme pour utiliser ces outils? Et en lien, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des formations professionnelles? Est-ce qu'il y a des universités qui forment à ces outils? Est-ce qu'il y a des associations? Comment, si quelqu'un veut se former, comment elle peut faire? Qui veut commencer? Géant, parce que Marc, il loge la tête.
Alors oui. Alors il y en a moins que les logiciels d'Adobe, hein, ça c'est clair. Ensuite, il y en a. Hein, il suffit de chercher sur Internet. Je crois même quand on regarde sur les formations qui sont remboursées par Pôle Emploi, on peut trouver des trucs pour GIMP. Ensuite, la personne avec qui je travaille, Aliam Han, elle donne par exemple des cours à l'université de Cergy Pontoise, illustration et retouche d'image avec GIMP. Voilà, donc en licence 3. Donc voilà, on trouve des formations. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il y a des prérequis? Il y a pas forcément des prérequis, puisque on peut apprendre avec. Ensuite, c'est des logiciels compliqués. Hein. C'est pas juste que c'est des logiciels qui peuvent être utilisés au milieu professionnel. Pour moi, c'est que ce soit Inkscape ou GIMP, c'est des logiciels professionnels, ce qu'on appelle des logiciels métiers, hein, un peu. Donc, c'est des concepts compliqués. On peut les utiliser pour en amateur, mais oui, il y a plein de concepts compliqués. Et plus on les utilise et plus on découvre des trucs. Même moi, après avoir développé GIMP pendant 10 ans là, depuis 10 ans, je découvre encore des trucs. Donc voilà.
D'accord. Est-ce que tu veux compléter, Marc?
Moi aussi, des trucs dans Inkscape à chaque fois que je fouille, soit dans les fonctionnalités, soit dans le code.
D'accord. Alors, sur les formations, je vais aussi rajouter qu'il y a la formation Colibre à Lyon, formation autour du graphisme et de la communication qui utilise que des logiciels libres, dont forcément, évidemment, GIMP et Inkscape. Dernière question sur cette partie, on va dire, présentation générale des outils. On a parlé des logiciels, mais le but de ces logiciels, c'est de créer entre guillemets aussi des fichiers quelque part. Il y avait la question des formats ouverts. Est-ce que l'un de vous veut expliquer un petit peu l'importance de ces formats ouverts par rapport à des formats fermés? Marc.
Alors nous, Inkscape, le format de travail d'Inkscape, on a choisi que ce soit lui-même un format ouvert et un format standard. C'est-à-dire que Inkscape travaille directement avec le format SVG, qui veut dire Scalable Vector Graphics, et qui est le format officiel pour les dessins vectoriels sur le web, qui est spécifié par le W3C, le World Wide Web Committee, donc le comité qui définit les standards du web comme HTML. Et donc c'est avec ce standard-là que nous on travaille directement, comme ça nous on fait des fichiers qui par défaut sont les plus standards possibles.
D'accord.
C'est une prise de position du projet Inkscape sur ce point.
Ok, et côté GIMP c'est la même chose? Enfin c'est le même principe?
Non, parce qu'il y a, un format ouvert qu'on veut de collaboration qui s'appelle le format Open Raster. au RH, mais bon, il est encore assez limité, il est encore relativement peu utilisé. Il y a qu'un seul logiciel qui le prend vraiment comme c'est MyPaint, c'est un logiciel libre aussi, très bien d'ailleurs, d'illustration, qui l'utilise comme son format par défaut. Mais sinon, à part celui-là qui n'est pas encore suffisamment utilisé, chaque logiciel... alors, je parle de format de travail. Hein, donc, oui. Donc chaque logiciel a son propre format. Alors, le nôtre, il est ouvert dans le sens où... donc, c'est le XCF. Donc, format, tout est entièrement documenté. Donc, n'importe qui peut le réimplémenter. Mais ensuite, c'est vrai que nous, on cherche pas... c'est pas standardisé. Si on a besoin de modifier quelque chose, on le modifie de notre côté.
D'accord.
Et c'est aux autres à suivre. Voilà, idéalement, il faudrait que le format OpenRaster s'améliore, mais sinon, à part ça, c'est... voilà. On peut échanger entre les fichiers. Alors, ce qu'on va faire, si on a besoin d'échanger avec d'autres projets, enfin, dans d'autres logiciels, ce sera plus d'exporter dans des formats intermédiaires comme le PNG, etc. Mais ça peut être par calc ou par... voilà. Ou alors...
D'accord.
Voilà. Ou alors l'autre logiciel aussi, des fois, ils implémentent XCF. Il y en a pas mal qui implémentent XCF. Ou nous, par exemple, typiquement GIMP, on implémente le logiciel PSD, le format PSD de Photoshop. Il y en a pas mal aussi. La plupart des logiciels vont implémenter. Ce sera jamais parfait, c'est ça le truc.
Ouais.
C'est ça la grande différence, c'est que nous, des fois, certaines fonctionnalités avancées de PSD, on n'arrivera pas à les importer bien. Et à l'inverse, d'autres logiciels peut-être qui savent ouvrir du XCF, ils n'arriveront pas à bien ouvrir certaines des fonctionnalités avancées de XCF.
Ok. Avant la pause musicale et qu'on change de thématique, je vais relayer la dernière question qui revient sur les formations. C'est mon collègue Étienne qui demande, dans les écoles de design, de graphisme, d'art, savez-vous si ces deux logiciels sont enseignés au même niveau que Photoshop ou Adobe Illustrator, c'est-à-dire en termes de qualité, de quantité horaire, etc. Alors, réponse rapide, Marc, sur Inkscape.
A priori, enfin pour ce qu'on en sait, c'est beaucoup moins enseigné qu'Illustrator pour... je dirais trois raisons principales. D'abord parce que c'est ce que les profs et les professionnels du domaine connaissent, donc c'est ce qui leur est plus simple à enseigner. Parce qu'il y a un gros lobbying d'Adobe sur les écoles d'art qui vont pousser pour faire des réductions pour les étudiants, où les étudiants vont y avoir l'impression d'y gagner en prenant Adobe pour seulement 40 euros par mois au lieu de 80 ou 90. Et parce que quand les étudiants vont chercher du travail après, bah, la plupart du temps, les demandes vont spécifier des compétences en Illustrator et pas autre chose.
D'accord. Et côté GIMP, géant ?
Oui, c'est pareil. Ensuite, les logiciels d'Adobe restent quand même les plus utilisés. Et il y a un tel lobbying. Et puis, ils ont souvent des licences gratuites, je pense, les étudiants. Donc, en plus, quand ils ont des licences gratuites, ils ont l'impression d'être plus professionnels parce qu'ils ont un logiciel cher.
D'accord.
Voilà.
Ok, d'accord. Donc, alors, on va faire une pause musicale avant de changer de sujet. Je précise que la pause musicale a été choisie par Géant, il expliquera sans doute après. Nous allons écouter, alors, j'ai un agneau gastrix chez Wish and Lidl Part 1, Screwsies Deal par Plagia. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
D'écouter, j'ai acheté un agneau gastrique chez Wish and Lidl Part 1 Exclusive Deal par plagiat. Disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Je précise, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, que ce groupe fait partie du collectif AMMD, AMMD.net. Nous avions un collectif d'artistes qui diffuse des œuvres sous licence libre. Nous avions interviewé ORL de ce collectif dans Libre à vous 126. Donc vous retrouvez le podcast et la transcription sur libreavoue.org/126.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion sur les logiciels libres GIMP Inkscape avec Marc Jean Mougin et Géant Pagest. Juste avant la pause musicale, nous avons parlé un petit peu des fonctionnalités de ces deux logiciels qui sont des logiciels libres. Donc là, on va parler plutôt de la partie projet, fonctionnement interne, gouvernance, pour un peu expliquer comment ces projets sont développés, parce que c'est souvent une question qui revient, hein, c'est un petit peu un mystère souvent pour les personnes. Donc déjà, avant de rentrer un petit peu dans les détails, quelle est je ne sais même pas s'il y a une structure de fonctionnement, quel est le fonctionnement en gros du projet. On va commencer par Inkscape.
Alors quasiment toutes les personnes qui sont dans le projet Inkscape sont des bénévoles, donc qui travaillent sur Inkscape sur leur temps libre. Et après, au niveau de la structure, donc Inkscape, c'est un projet hébergé par la Software Freedom Conservancy, qui est une association américaine.
Pas de droit américain.
Ouais. Qui est une non-profit, donc qui n'a pas le droit de faire de bénéfices.
Non lucrative.
Voilà. Non lucratif, sachant que c'est quelque chose de beaucoup plus restreint aux États-Unis qu'en France comme statut. C'est eux qui vont gérer les finances de l'association qu'on reçoit par des dons et qui vont gérer, par exemple, si on veut embaucher. En ce moment, on est dans le process pour embaucher quelqu'un pour s'occuper de la gestion de projet au niveau du projet en général, pour essayer de voir qu'est-ce qui manque dans le projet ou est-ce qu'on pourrait faire un meilleur usage des ressources en personnes qu'on a. Mais sinon, comment on s'organise entre nous, donc entre bénévoles, on s'organise plutôt par équipe. Donc il y a l'équipe de développement qui va s'occuper des codes, des bugs, des nouvelles fonctionnalités et autres, et qui se rencontre tous les 8 jours pour discuter, par exemple, mais sachant qu'on a aussi des canaux de discussion.
Quand tu dis qu'ils se rencontrent physiquement?
En ligne.
En ligne, d'accord.
Pour discuter. Il y a aussi, du coup, une équipe de gens qui vont, par exemple, faire les traductions. Donc ils vont discuter entre eux de problématiques de traduction. Il y a une équipe de gens qui vont s'occuper du design de l'expérience utilisateur de Inkscape, donc qui vont un petit peu se coordonner avec les développeurs de temps en temps, mais qui vont surtout discuter des aspects de parcours utilisateur, etc. Il y a une équipe de gens qu'on appelle les Vectors, parce que ça fait un petit jeu de mots, qui vont s'occuper de la promotion d'Inkscape, c'est-à-dire faire des petits articles, de contacter éventuellement des journaux qui s'occupent du libre pour dire qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle fonctionnalité, ou d'écrire des petits articles de blog, etc. Donc on fonctionne vraiment par team et
par équipe, d'accord.
Par équipe, ouais.
On va après rentrer un petit peu dans le détail, là c'est une présentation un petit peu générale. Donc même question pour le projet GIMP Géant.
Alors nous aussi c'est entièrement communautaire. Alors si on parle de tout ce qui est finance, hein, c'est pour nous c'est la fondation Gnome, hein, qui gère nos finances et qui héberge nos outils. Ensuite, on est totalement indépendant, c'est pas un projet GNOME, un GIMP. D'ailleurs, ce serait plutôt l'inverse, hein, un GNOME est né de GTK qui lui-même est né de GIMP.
GTK, voilà, c'est le cadre de développement que vous utilisez pour faire GIMP, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est la bibliothèque graphique pour l'interface. Donc voilà, ensuite, la plupart sont des bénévoles. Ensuite, certains dont nous, avec notre projet, essaient de se financer indépendamment, participativement. Donc nous, avec notre projet The Marmot. Il y a le mainteneur de Gaggle qui est notre moteur graphique, alors dans le sens le traitement des pixels par l'interface, qui lui aussi essaie de se financer. Voilà, en fait, on se finance indépendamment et on a des idées de monter une entité peut-être à part, probablement sous la forme d'une association et probablement en France parce que c'est moi qui fais la plupart des choses dernièrement. Donc on verra si ça se fait, mais pour l'instant tous les financements, on va dire individuels, pour ceux qui veulent essayer de vivre de développement, c'est indépendant. Voilà, donc c'est un peu plus, c'est assez anarchique comme type d'organisation. Et voilà, et je pense qu'on est beaucoup, enfin je sais pas trop, mais comme j'entends Marc là, je me dis qu'on n'a pas d'équipe comme ça, on n'a pas 10 équipes pour tout, parce que moi là depuis deux ans, c'est moi qui fais la plupart des choses, par exemple que ce soit en développement, que ce soit c'est moi qui écris les news sur le site, les articles sur le site web, c'est moi qui fais beaucoup de choses. Heureusement, je suis quand même aidé, mais j'aimerais bien qu'on ait plein d'équipes pour plein de choses.
Alors justement, je vais te laisser réagir, Marc. Je vais presser un peu la question. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont, alors c'est difficile de dire activement impliqués parce que ça dépend beaucoup, mais est-ce que vous avez une idée un petit peu du nombre de personnes? C'est vrai que quand on écoute Marc, on a l'impression d'avoir une grosse structure avec plein de personnes, mais est-ce que pour donner une idée, vous avez une idée du nombre de personnes, Marc?
Ça dépend beaucoup de comment on compte les gens, parce que si les gens ils viennent. Mais je voulais aussi dire que cette structure en équipe, c'est quelque chose de relativement récent. On s'est aperçu que c'était plus simple pour les gens qui voulaient nous aider sans forcément coder, d'avoir cette sorte de structure et de pouvoir leur dire, si vous voulez nous aider sur tel truc, voilà tel canot de discussion qui s'occupe de tel sujet. Et c'était plus simple comme ça. Et du coup, je dis une équipe, mais en vrai, il y a des équipes où il y a plus de gens que d'autres. L'équipe qui s'occupe de la promotion, il y a peut-être 6-7 personnes qui sont là régulièrement. L'équipe UX, peut-être 2-3.
UX, c'est la partie expérience utilisation. Oui.
C'est peut-être 2-3, donc je dis équipe, mais il ne faut pas s'imaginer qu'il y a 40 personnes par équipe. On a quelques développeurs, quelques personnes qui nous aident sur la promotion, etc.
Alors, je vais préciser ma question et je laisserai Géant y répondre aussi. Sur la partie développement pur du logiciel, côté Inkscape, est-ce que vous savez combien vous êtes et combien vous êtes de personnes entre bénévoles et personnes payées pour ça? Parce que toi, tu as expliqué tout à l'heure que tu étais en partie payé pour contribuer à Inkscape sur ton temps de travail par Télécom Paris. Donc, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes sur la partie vraiment purement développement? Marc, déjà.
Je dirais qu'il y a moins d'une dizaine de gens qui sont là de manière régulière. Quand je dis régulière, c'est qu'on les voit depuis longtemps et qu'on sait qu'on pourrait les contacter. Et il y en a, en termes de rémunérer, vraiment très peu. Il y a moi sur une toute petite partie de mon temps. Je sais qu'il y a Martin Owens, qui est un développeur américain, qui a un Patreon et qui essaie de se financer comme ça.
Patreon, c'est du financement participatif.
Ouais. Donc il y en a quelques-uns qui ont une tentative de financement participatif comme ça, et aucun qui est rémunéré par le projet.
Ok, et côté GIMP, même question?
Alors côté GIMP, donc au niveau développeur, il n'y en a que deux, donc moi-même, donc par The Marmot, et donc Pipind. Alors son vrai nom c'est Oyvind Kolas, mais je sais pas comment ça se prononce, donc j'ai sûrement mal prononcé, qui lui aussi se finance par financement participatif. Donc on est que deux. Ensuite, au nombre de développeurs, ça dépend, parce que nous GIMP ça existe depuis 1995, donc là je viens de faire un compte vite fait, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont contribué. Ensuite, par exemple, si je regarde là depuis le 1er janvier 2022, je viens de regarder à l'instant, il y a eu moins de, je sais pas, peut-être, le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup les traducteurs qu'on voit là, mais une dizaine peut-être de personnes qui ont contribué. en sachant que depuis janvier, moi j'ai fait 306 commits et le deuxième développeur il est à 13. Donc en gros c'est voilà. Alors par contre oui, sur GIMP, sur la partie GIMP, mais ensuite nous on compte aussi Gaggle, et là il y a donc Pippin qui travaille lui aussi beaucoup et qui a aussi un flow. Alors si j'ai pas regardé là son dépôt, mais lui qui travaille aussi qui fait similairement à moi énormément de voilà. Donc en gros on est deux à faire vraiment le gros du travail à l'heure actuelle, et puis il y en a certains réguliers qui font parce que 13 c'est déjà pas mal en quelques mois, qui font de temps en temps des trucs, et puis voilà. Alors on était un peu plus il y a quelques années, mais là la situation, j'avais un co-mainteneur qui depuis 2 ans là il travaille, alors qu'il était là depuis une vingtaine d'années lui, hein. Donc, depuis plus longtemps que moi, et il a un peu voilà, apparemment ça c'est l'année, les 2 années furent assez dures pour lui avec le Covid et tout ça.
D'accord.
Voilà.
Ok. Donc, ça permet aussi de prendre conscience que ces logiciels libres qui sont quand même très largement utilisés reposent au fond sur très peu de personnes. Donc là, on a parlé à partie effectivement dev, où on se voit, c'est pas énormément de personnes. Marc a évoqué différentes équipes. Parce qu'une des forces du logiciel libre, c'est qu'on peut contribuer pas uniquement en développement. Donc, quelqu'un qui voudrait là vraiment s'impliquer dans l'un de ces projets ou dans ces deux projets, quels sont les besoins les plus importants en termes de contribution hors développement, Marc, sur Inkscape?
Je dirais que sur Inkscape, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose où on aimerait avoir plus des vues plus diversifiées sur les questions, donc pour avoir une plus grande représentativité des gens qui utilisent Inkscape. Donc, qu'ils puissent venir s'impliquer sur les discussions sur des futures fonctionnalités ou sur des refontes de fonctionnalités. S'il y a des designers d'expérience utilisateur qui nous écoutent, on en a besoin dans le projet Inkscape parce qu'on sait que c'est pas forcément le point fort du logiciel. Et puis voilà.
Et alors, parce que là, vous êtes tous les deux français. Enfin, en tout cas, vous parlez.
Par ailleurs, oui, on cherche des traducteurs français aussi. Parce que là, c'est moi qui me suis mis à traduire pour la prochaine version. Mais en vrai, si d'autres personnes veulent le faire.
Donc de la traduction. Mais ma question était plutôt sur la langue utilisée pour contribuer. Est-ce que quelqu'un qui ne parle pas l'anglais peut facilement contribuer, Marc?
Non.
Non, c'est compliqué.
En réponse courte, non.
D'accord.
Enfin, c'est vraiment compliqué dans le sens où l'anglais c'est un peu la langue des échanges internationaux sur les projets de logiciels libres, et là on fait pas exception.
D'accord. Et côté GIMP,
par rapport à ça, il faut parler anglais, mais on demande pas aux gens d'avoir un anglais parfait.
Ah non, des gens qui parlent très 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 mal anglais. Hein.
Voilà,
et on s'en fiche en fait.
Voilà, en fait c'est personne vous dira rien si vous faites des fautes, tant qu'on vous comprend, tant que vous faites des efforts pour être compris. Donc en gros, et en ce sens, je dirais que faut pas que ce soit ça qui arrête, parce que ce serait un peu idiot.
Et puis c'est une bonne façon d'apprendre l'anglais, de contribuer à ces projets. Mais en tout cas, les gens doivent savoir qu'il y a un minimum effectivement pour être en tout cas compréhensible. Est-ce qu'il y a aussi des besoins, parce que tout à l'heure Géant a expliqué quand même que c'était deux logiciels libres métiers. Donc quand on dit logiciel métier, bah il y a des concepts, etc. à comprendre, à maîtriser, ou en tout cas qui sont pas forcément évidents à appréhender. Est-ce que côté documentation, côté tutoriel, est-ce qu'il y a des besoins? Tout à l'heure sur le salon web, quelqu'un parlait justement qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà. Ce sont des besoins récurrents pour GIMP et Inkscape, Géant?
Ah oui, tout à fait. Bah, nous, on a une assez grosse documentation, assez complète. Enfin, pas, elle est pas justement, elle n'est pas encore complète, mais il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Alors, elle a été plus ou moins un peu abandonnée pendant quelques années, mais là, il y en a un contributeur, Jacob, qui l'a repris. D'ailleurs, je l'ai mis mainteneur sur la documentation, ce qui fait beaucoup de choses. Donc quand tout à l'heure je donnais le nombre de commits, c'était sur le code de GIMP, mais lui en fait par exemple il fait beaucoup de choses maintenant sur la documentation. C'est pour ça qu'il fait un peu moins sur le code, mais en même temps c'est très utile. Donc oui tout à fait, il y a besoin. Ensuite il y a plein de gens qui vont pas lire la documentation et dire je comprends pas, mais on a une documentation qui explique pas mal de concepts. Voilà. Et puis sinon la traduction en GIMP par exemple, c'est traduit en plus de 80 langages. Hein. Il y a plein de traducteurs. Alors là, on bénéficie des équipes de traduction de la fondation GNOME, comme on est dans l'infrastructure. On est aussi connecté à ça, et les traducteurs, ils traduisent aussi. Il y a, Il y a quand même pas mal d'activités pour toutes les personnes qui veulent aider sans être développeur. Voilà. Ensuite, le site web, là, dernièrement, c'est moi qui crée beaucoup de choses. Mais ce qu'on aimerait bien, et c'est par exemple qu'il y a des gens qui proposent des tutoriels pour tous les niveaux. En fait, il n'y a pas, à la limite, ça peut être des tutoriels débutants si on n'est soi-même pas forcément très avancé. Et ça nous permet aussi d'apprendre et d'avoir des tutoriels. Et puis après, plus tard, d'avoir des tutoriels avancés. Voilà, il y a plein de... Ou le site web aussi, l'améliorer en lui-même. Hein, s'il y a des gens qui sont plus des designers web ou des développeurs web qui veulent l'améliorer. Il y a pas mal de choses où on peut aider.
D'accord. Côté Inkscape,
ah bah pareil, on considère que les tutoriels et la documentation, c'est une partie importante de ce qui permet aux gens de s'y repérer rapidement dans un logiciel. Que on a déjà quelques tutoriels intégrés, mais en vrai, si... Enfin, il y a plein de choses qui sont pas vraiment documentées ou pas bien expliquées dans le logiciel, et que si des gens veulent nous aider à écrire des tutoriels ou autres, ils sont bienvenus, évidemment.
Alors, on voit que ces deux logiciels, en tout cas, c'était évoqué en première partie, GIMP et Inkscape, ont des liens en commun, et puis des... Et il y a d'autres logiciels libres de graphisme, etc. Est-ce qu'il y a des lieux d'échange entre les différents logiciels libres pour les évolutions ou autres? Est-ce qu'il y a des lieux physiques? Est-ce que vous rencontrez à certains moments pour avancer sur des projets communs, ou simplement pour échanger sur vos problématiques ou vos projets sur les versions à venir? Marc?
Avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais ouais. En tout cas, jusqu'en 2020, il y avait le Libre Graphics Meeting, qui était une réunion annuelle des projets de logiciels libres liés au graphisme. Donc, nous, on rencontrait des gens de GIMP, de Krita, d'Inkscape, de Blender, et de plein d'autres logiciels liés de près ou de loin au graphisme.
C'était un événement physique.
C'était un événement physique annuel.
D'accord. Voilà.
Et après, sinon, on essayait aussi de faire un événement par an où on rencontre les autres développeurs d'Inkscape pour discuter du projet.
D'accord. Et même chose côté GIMP, vous avez des rencontres dédiées GIMP ou vous participez à d'autres rencontres comme le Linux Graphic Meeting?
Ah, tout à fait. Bah, on allait au LibreGraphics Meeting qui d'ailleurs est un peu une extension alors c'était avant que j'arrive, hein, ça, des conférences GIMP où les premiers développeurs ils se rencontraient, et puis après il y a eu le LibreGraphics Meeting qui, je pense, avec GIMP, Inkscape, les projets de l'époque, on se sont dit, et si on se rencontrait entre nous? Donc ça, on y allait tous les ans, moi j'y suis allé là tous les ans depuis 2013, voilà. Et d'ailleurs, c'est le fait qu'on en est plus là depuis 2-3 ans là, que ce que je disais, le mainteneur qui a l'autre mainteneur qui a plus ou moins disparu, je sais qu'il me disait tout le temps que c'était ce qui lui manquait le plus. Parce que lui, justement, il cherche pas forcément à travailler, enfin, il se finance pas du tout sur GIMP et tout ça. Lui, il est libraire, il faisait ça entièrement sur son temps libre, comme il était son propre patron, je l'imagine, dans sa librairie, quand il y avait personne, il était en train de coder. J'imagine que c'était ça. Voilà. Et je sais que c'est un truc qui manque énormément, de plus pouvoir se rencontrer, de plus voir, et ça, c'est un, voilà. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis, de temps en temps, on avait fait aussi ce qu'on appelait le Wilbur Week.
Le quoi?
Wilbur, c'est notre mascotte.
Ah oui, d'accord.
Et ça, en fait, c'est le logo de GIMP.
Oui.
Le logo, il s'appelle Wilbur.
D'accord.
Donc voilà. Donc le Wilbur Week, c'était quand on se rencontrait juste entre nous. Des fois, on prenait on louait un lieu au milieu de la campagne, genre en Espagne, au milieu de la forêt, et puis on restait une semaine à coder entre geeks et à faire des projets, voilà, sur le futur de GIMP.
D'accord. Bah, peut-être qu'avec la période qui est un peu plus, on va dire que la pandémie a totalement disparu, mais peut-être que le Linux Graphics Meeting va pouvoir revenir à un moment ou l'autre. Et de mémoire, c'est-à-dire que c'était en France.
C'est Libre Graphics Meeting.
J'ai dit quoi?
Linux.
Oh mince.
Pas grave.
Libre Graphics Meeting, et c'était, si je me souviens bien, c'était l'événement qui est souvent organisé en France, sauf erreur.
Ouais. Je pense que les premiers, c'était en France, effectivement. Et dernièrement, c'était aussi en France le dernier qui était censé se produire.
D'accord.
Mais ensuite, à part ça, il a été quand même dans pas mal de pays du monde. Mais il a été plusieurs fois en France, effectivement.
D'accord. Dans les projets logiciels libres, en fait, ce qui est disponible, c'est... tout à l'heure, en introduction, Marc parlait qu'il s'occupait notamment de ce qu'il appelait des releases, c'est-à-dire la publication des versions, on va dire, entre guillemets, officielles ou stables. Donc, il y a les versions de développement, versions officielles. Comment ça se passe, en fait, d'un point de vue pratique? À quel moment le projet dit que Et même question pour Géant après, parce que j'ai vu que récemment sur linuxfr.org, tu as posté une dépêche annonçant la prochaine version de GIMP avec tout ce qu'elle est arrivée. Comment ça se passe, le choix tout d'un coup de dire à un moment, cette version-là, c'est une version entre guillemets officielle avec un numéro. Comment ça se passe, Marc-Jean Bougin?
Alors, on a un petit peu changé de paradigme il y a 2 ans, parce qu'on a mis plusieurs années à sortir la version 1.0 après des gros changements sur le code. Et on s'est dit qu'il fallait faire des trucs plus réguliers. Et donc... vraiment, vers ce moment-là, on a décidé, on fait une sortie majeure par an, à peu près en mai, et on fait 2 releases de correction de bugs, 4 mois après, 8 mois après, comme ça fait tous les 4 mois, il y a une release, et c'est comme ça.
D'accord. Alors, je précise que tu viens de poser le mot bug. La prochaine chronique, Vincent Calame, qui s'est installé, nous parlera d'un bug qui peut envoyer en prison. Vous verrez la chronique, c'est un petit teasing. Donc c'est bientôt la prochaine version majeure, comme tu dis, puisque nous sommes en avril 2022, je précise, pour les personnes qui nous écouteraient dans le futur, qui serait déjà la version 10 de Inkscape. Même question pour GIMP. Récemment, sur linuxfr.org, qui est un site d'information autour du logiciel libre, tu as publié, Géant, une longue dépêche. D'ailleurs, on te félicite sur le salon web détaillant ce qui allait venir. Donc comment ça se passe pareil sur la décision de telle version et devient une version majeure?
Alors nous, c'est beaucoup plus bordélique parce que on n'a pas vraiment de calendrier. C'est comme beaucoup de projets font. Ensuite, c'est juste quand on se dit pour une version majeure c'est différent, mais pour une version soit ce qu'on appelle mineure ou micro, on se dit à un moment donné, on a des bonnes corrections, des bonnes choses. Et on la sort, et on sort comme ça des versions tous les 3 mois, je dirais, à peu près. Voilà, en général, on se décide 10 jours avant, et voire une semaine avant, et en général, on a, par rapport à notre décision, on a encore 2 semaines de retard, parce que voilà. Donc c'est en gros, ça fait ça. Donc voilà. Ensuite, nous aussi, on a changé avec la 2.10, donc c'était en 2018. On a changé notre logique où jusqu'alors on faisait les versions micro, c'est-à-dire qu'on a des chiffres sur des versions sur 3 numéros. Genre on est à la 2.10.30 par exemple. Et le micro, c'est quand on change seulement le 3e numéro. On disait que c'était que des corrections de bugs, sauf que maintenant on a décidé depuis 2018 qu'on peut avoir des nouvelles fonctionnalités, parce que justement on s'était rendu compte que beaucoup de gens en fait croyaient que GIMP était mort, parce que entre les sorties de versions mineures où on pouvait avoir des fonctionnalités, il pouvait se passer plusieurs années. Alors qu'on avait tous les quelques mois on a des sorties, mais les gens les voyaient pas puisque c'était des sorties qui se corrigeaient que des bugs. Voilà, donc en gros quand c'est des bugs, ils ont pas l'impression que c'est développé en fait. Quand c'est des corrections de bugs, je veux dire.
D'accord.
Voilà. Donc okay. Voilà. Et ensuite la sortie majeure, là c'est plus compliqué parce qu'il faut il y a pas mal de choses où en fait notamment on a une interface de programmation pour les plugins ou ce genre de choses, et il faut absolument que ça soit stable parce que ensuite on sera bloqué avec ça pendant 10 ans ou plus quoi.
Ok, d'accord. Alors, le temps passe vite, il nous reste très peu de temps, mais je vais d'abord relayer une question rapide pour Marc qui est sur le salon web. La question, c'est est-ce que tu considères que LibreOffice Draw et Inkscape sont comparables? Et la question est complétée par est-ce que les équipes ont des contacts? Donc, Marc-Jean Mougin.
J'utilise pas assez LibreOffice Draw pour savoir si c'est vraiment comparable.
D'accord.
Je l'utilise il y a très longtemps, et pour moi, il y avait plus de fonctionnalités dans Inkscape, mais c'était un petit peu le même principe de base. Après, je sais pas trop ce qu'ils utilisent comme format de fichier, et on n'a pas vraiment de contact avec la Document Foundation à ma connaissance.
Alors, la Document Foundation qui est notamment derrière LibreOffice, qui est un petit peu qui chapeaute un petit peu LibreOffice. Alors, il y a une question dans le cadre de la préparation de l'émission, un sujet qui te tenait à cœur, c'est le terme de logiciel libre communautaire, pas juste logiciel libre et pas juste logiciel communautaire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par logiciel libre communautaire, notamment dans le cas de GIMP?
C'est un peu ce dont on a parlé, que ce soit pour Inkscape ou GIMP, c'est des logiciels qui sont vraiment... Parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de logiciels libres qui sont quand même créés de manière très centralisée, et des fois par des grosses boîtes, je veux dire, même Google, ils font des logiciels libres. Voilà. Et c'est vrai que ce soit Inkscape, de ce que je connais, ou GIMP, c'est vraiment une communauté derrière, et c'est vous qui le créez, en fait, parce que n'importe qui... Moi, j'étais n'importe qui hein, quand j'ai commencé en 2012. Moi, j'ai envoyé mes premiers patchs. Je crois mon tout premier patch, c'était je rajoutais une icône sur un bouton. Quand on cliquait, ça changeait l'icône parce que c'était un bouton play stop. Je me disais, mais quand j'appuie sur play, je veux que ce soit stop. Je crois que c'était ça, mon premier patch. Donc c'était vraiment les trucs de base. Et en fait, assez rapidement, j'ai fait quelques corrections comme ça, et on m'a donné, à un moment, on m'a dit, maintenant, mais tu fais des bons patchs, vas-y, je te donne les droits d'accès. Alors, on fait pas n'importe quoi, on a une responsabilité à ce moment-là. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment et c'est une communauté qui crée n'importe qui vraiment peut participer. Voilà. Et en fait, c'est pour moi, c'est un concept très important, parce que je trouve que c'est ça qui fait la beauté de ces logiciels, et c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de possiblement faire un organisme, une entité, et c'est quelque chose aussi où je réfléchis beaucoup, c'est que je veux absolument pas perdre, je veux pas que ce soit une entité qui puisse, on va dire, prendre le contrôle du développement, par exemple.
Ouais, tu as peur qu'une structure, quelle qu'elle soit, puisse en fait rigidifier quelque chose qui est assez souple, en fait. C'est
tout
ça?
À fait, exactement.
Ok.
Ouais.
On aborde vraiment la toute fin. On en a parlé tout à l'heure un petit peu du financement, notamment côté GIMP, alors, et côté Marc avec son petit bout, mais en tout cas qui est important, d'un employeur public qui finance Marc pour contribuer à Enscape. Géant côté GIMP, tout à l'heure tu parlais, et je crois que c'est Marc aussi qui a parlé de Patreon, donc c'est des financements participatifs. Comment ça fonctionne? Ce genre de financement, notamment dans le cadre de ton activité à GIMP.
Alors, en fait, le financement participatif, donc là, on avait fait aussi au tout début un financement participatif sur des grosses plateformes comme le genre de plateforme qu'on connaît, que vous savez, Kickstarter, Indiegogo, mais ça, c'est en une fois. Mais alors, les types Patreon ou Tipeee, on est sur Patreon, Tipeee ou Liberapé, que moi je conseille plutôt Liberapé parce que c'est aussi une association française à but non lucratif qui gère ça et qui et la plateforme elle-même est en logiciel libre. Et en fait, là, c'est plus où les gens se souscrivent en fait un peu et peuvent donner. Alors, pour Patreon et Tipeee, c'est par mois. Pour Liberapé, c'est par semaine. Et on peut dire, par exemple, quelqu'un se souscrit et donne quelques euros par semaine ou quelques euros par mois. Et en fait, c'est une autre façon de voir le financement. Plutôt que de faire un gros truc, il faut absolument avoir une énorme somme. Là, on peut avoir plein de gens qui donnent juste un tout petit peu de temps en temps, plus souvent. Voilà. Et en fait, donc notre projet, hein, The Marmotte, vous pouvez d'ailleurs le trouver sur les trois plateformes, la Patreon, Tipeee, Liberapé. Voilà. Et il y en a d'autres, hein, Pipin, P-I-2-P-I-N aussi, vous pouvez trouver lui sur Patreon. Et donc lui aussi, et Liberapé aussi. Voilà, lui c'est pour le moteur graphique, c'est aussi un très important lui.
D'accord.
Voilà. Et je sais que sous Inkscape, ils ont aussi, comme tout à l'heure disait Marc, on sait qu'il y a un développeur qui fait pas mal de choses dernièrement et qui est aussi sur Patreon.
Tu veux compléter là-dessus d'ailleurs, Marc? Avant de passer à la dernière question.
Enfin, pour moi, c'est un peu complémentaire au fait Inkscape, on reçoit donc des dons qui passent par la Software Freedom Conservancy et qui financent le projet en général, c'est-à-dire les dépenses qu'on a au niveau du projet, mais qui n'emploient pas de développeurs. Donc, c'est un petit peu complémentaire pour permettre aux développeurs d'avoir un revenu régulier. Qu'on a Martin Owens qui a ça notamment.
Et ce que permettent ces plateformes comme Digéant, c'est cette récurrence aussi qui garantit une sorte, entre guillemets, de pérennité, de visibilité sur le long terme. Avant la dernière question finale de résumé, de synthèse, est-ce que vous avez des annonces ou des besoins donc que vous n'auriez pas évoqué pour le moment, très rapidement, Marc?
Ah bah, on annonce rapide, dans à peu près un mois, on a Inkscape 1.2 qui sort, et ce sera cool.
Parce que nous sommes en mai, dans voilà. Très bientôt, d'accord. Et côté GIMP?
Alors, je peux pas vous annoncer quand GIMP 3 sort.
Non, quand il sera prêt.
Voilà, quand il sera prêt. J'essaie de pousser, hein, et si ça peut être cette année, il y a des choses à être sûr, donc je peux pas vous dire que ce sera cette année. On travaille beaucoup dessus. Voilà.
D'accord.
Sinon.
Ok. Alors, question finale rituelle de l'émission. En conclusion, quels sont les éléments clés à retenir de l'émission en moins de 2 minutes chacun? On va commencer par Géant Pagès pour GIMP.
Pour moi, les éléments clés, c'est un peu tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que pour moi, c'est assez important de comprendre comment GIMP fonctionne, comment Inkscape fonctionne aussi. Je trouve que c'est très important parce qu'il y a des gens qui nous parlent encore comme si on était du support technique, qui vont nous insulter ou quoi. Alors qu'ils comprennent pas que la communauté, c'est eux aussi. Voilà. Ensuite, je reviens sur le financement, hein. Cherchez-nous sur Patreon, Tipeee, Liberapé, hein. The Marmotte, Z2, M-A-R-M-O-T et Pipin, P-I-2-P-I-N. Parce que je pense que c'est très important. Voilà, et n'hésitez pas à contribuer. La contribution, franchement, tout le monde peut la faire, même si vous n'êtes pas développeur. Comme je disais, il y a plein de choses que je fais et que j'aimerais ne pas avoir à faire. parce que je préférerais me concentrer sur le code, et s'il y avait des gens qui veulent aider, il y a des choses pour tout le monde. Et pour le développeur aussi, évidemment. Si le
développeur. Ok, voilà. Bah merci Géant. Et donc, Marc Jean Mougin, même question.
Ok, donc je vais un petit peu faire une réponse qui est un petit peu similaire. Hein. Donc à retenir, donc le fait que Inkscape, en fait, c'est ce que nous en faisons, donc collectivement. Donc, d'une part, n'hésitez pas à contribuer si vous voulez influencer sur la direction future du projet Inkscape, parce qu'on est assez accueillant, donc n'importe qui peut venir et essayer d'aider le projet, sachant que c'est vraiment un investissement en temps. Et Inkscape en soi, c'est plus un collectif anarchiste au sens auto-organisé. Et donc on décide nous-mêmes de dans quel sens on avance, et c'est un peu ça que ça veut dire. Et enfin, en petit complément sur les financements de projets, moi ce que je voudrais, c'est un petit peu un appel aux entreprises ou aux collectivités publiques ou autres, de dire si vous utilisez Inkscape ou autre, la manière la plus simple et la plus pérenne de faire prospérer ces projets, c'est d'employer un contributeur sur des postes long terme, y compris à temps partiel, pour permettre aux gens de débloquer du temps pour participer à ces projets. Et je pense que c'est un modèle qui a de l'avenir sur comment aider les projets de logiciels libres en ayant des employeurs pour leurs contributeurs.
Si je peux parler, c'est un très bon point, j'ai pas pensé, mais ce que Marc vient de dire, c'est vrai, parce qu'on parlait des utilisateurs professionnels et de ça, mais on sait que dans les collectivités, il y en a énormément qui utilisent GIMP et Inkscape. Et donc, en fait, on sait que les gouvernements, ils aiment bien dire le logiciel libre, c'est bien, etc. Et à côté, ils font des contrats pour les logiciels propriétaires. Bah, c'est vrai que s'il y a des collectivités qui écoutent, ils peuvent mettre cet argent plutôt dans les logiciels libres qu'ils utilisent.
Eh bien, écoutez, plutôt appel lancé. En tout cas, je vous remercie. Donc, nos invités, Marc Jean Mougin et Géant Pagès, donc pour Inkscape Game. Toutes les références citées sont sur le site de l'émission libreavoue.org. Donc, vous pouvez les retrouver, et notamment les liens de financement participatif. Bah, écoutez, merci à vous deux et belle fin de journée.
Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée.
On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Vincent Calam intitulée « Le bug qui envoie la case prison ». La pause musicale a d'ailleurs été choisie par Vincent. On va écouter « Humans vs Machines » par Emma. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
All your base are belong to us. Thank you.
Nous venons d'écouter Humans vs Machine par Emma, disponible sous licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer à notre dernier sujet. Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes, chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements, équipes en tout genre. C'est la chronique Jouons Collectif. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Mais aujourd'hui, le thème du jour m'a un petit peu surpris, c'est quand le code envoie en prison.
Oui, tout à fait. Alors, justement, j'avais aussi proposé cette morceau de musique qui s'appelait Human versus Machine, parce que l'idée de la guerre entre les humains et les machines est un thème presque aussi vieux que la science-fiction elle-même. D'ailleurs, la pièce de théâtre Rur, écrite par le tchèque Karel Čapek en 1920, où a été inventé le thème robot, décrit déjà une révolte des machines conduisant à l'anéantissement de l'humanité. Alors aujourd'hui, nous en sommes heureusement encore pas là. Alors certes, le terme intelligence artificielle est à la mode et mis à toutes les sauces. J'imagine d'ailleurs qu'aucun projet informatique ne peut lever de fonds actuellement sans prétendre faire appel à de l'intelligence artificielle, entre guillemets. Mais le terme est évidemment abusif, nous sommes loin d'une vraie intelligence. Pas besoin d'ailleurs d'une quelconque intelligence hostile et extra-humaine pour s'inquiéter de la place prise de nos jours par les algorithmes dans les réseaux sociaux et du risque qu'ils font courir à notre vie démocratique. Je pense que toute personne qui code et consciente de l'enjeu politique du code doit se poser la question de sa responsabilité dans cette informatisation du monde. D'autant plus que le code informatique qui broie des vies humaines, qui envoie en prison, ce n'est pas de la science-fiction, on y est là aujourd'hui. Depuis 20 ans même au Royaume-Uni avec le scandale du logiciel Horizon.
Alors, peux-tu entrer dans le détail de cette affaire ?
Oui, alors en ce qui me concerne, je l'ai découvert tout récemment via un article du magazine M du Monde daté du 19 mars. Alors, malheureusement, l'article est réservé aux abonnés, mais j'ai mis d'autres références publiques sur le site. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans les années 1990, la Poste britannique met en chantier l'informatisation de son système de comptabilité. Le logiciel, appelé Horizon, est développé par l'entreprise Fujitsu. Il faut savoir que de nombreuses agences postales sont en fait gérées comme des franchises, avec des gérants qui sont des indépendants, parfois en gérant en parallèle avec un autre commerce. Ils sont appelés sub-postmasters. Donc le système est déployé massivement en 1999, et très vite des erreurs apparaissent. Bon, jusqu'ici, rien de plus classique, les bugs font partie de la vie d'un logiciel. Le problème, c'est la réaction de la direction de la Poste britannique. En effet, comme le logiciel fait apparaître des différences entre recettes et ventes dans de nombreuses agences, la Poste britannique accuse leur gérant détournement de fonds. Alors Le Monde cite le témoignage d'une personne, incarcérée à l'âge de 19 ans, en 2002. Donc elle dit « J'ai été accusée d'avoir volé 11 503 livres par le Post Office ». Depuis le premier jour où les erreurs comptables sont apparues, j'étais coupable à leurs yeux. Ils me demandaient juste à quoi avait servi l'argent. J'ai été condamné à 6 mois de prison. Donc, à aucun moment, le logiciel n'était mis en cause. Il y avait une foi aveugle dans les données qu'il retournait et aucun moyen de les contester. Pas de traces papier et bien sûr, pas de code source ouvert pour aller vérifier de quoi il en retournait.
Alors, tu parles de 1999 et 2002, donc 20 ans après, cela fait encore l'actualité ?
Oui, c'est un autre aspect un peu hallucinant de ce scandale. C'est seulement en avril 2021 qu'un jugement en appel a cassé les condamnations pour fraude et vol des 555 victimes regroupées dans un collectif appelé Justice for Postmasters Alliance. Il faut savoir que le logiciel n'a vraiment commencé à être mis en cause qu'à partir de 2009, grâce à un article du média spécialisé Computer Weekly. Alors, une raison très importante de ce décalage dans le temps, c'est que les franchisés accusés étaient isolés et se croyaient seuls dans leur cas, la direction de la Poste britannique se gardant bien de signaler que plusieurs centaines de personnes étaient concernées. La personne témoignant dans Le Monde dit même qu'elle s'est aperçue qu'en 2015 qu'elle n'était pas seule. Alors, au passage, je trouve que cela fait étonnamment écho au combat actuel des livreurs d'Uber et d'autres plateformes pour faire reconnaître leur statut de salarié. Donc, logiciel opaque, direction irresponsable, employés précarisés par un statut d'indépendant, certains à 18 ou 19 ans, tout le cocktail est là. Notons également que le logiciel a continué de sévir longtemps, puisque Le Monde cite une autre personne, nommée gérante en 2006, dont les problèmes sont apparus en 2014. Au final, ni Fujitsu, ni la direction de la Poste n'ont été inquiétés, d'après l'article, et la facture de l'indemnisation, on parle d'1 milliard d'euros, sera pour le gouvernement britannique. Alors, et le logiciel libre dans tout ça ? Bon, un logiciel libre n'aurait évidemment pas protégé du cynisme de la direction de la Poste britannique. Mais l'accès au code aurait permis une contre-expertise technique n'aurait pas attendu 10 ans. Dans un article de Computer Weekly, ils annoncent le lancement par la Poste britannique d'une expertise extérieure sur le système informatique en 2012 seulement. Donc l'article du Monde part de frais d'avocat énormes pour le collectif de plaignants. Plusieurs dizaines de millions de livres. Je pense que payer quelques centaines de milliers de livres de codeurs talentueux et indépendants pour ces gens plongés dans le code du logiciel Horizon, est-ce vraiment du luxe dont on peut se passer ?
C'est une bonne question. Et j'aurais aussi une question de finalement qui est coupable dans cette histoire de dingue. Parce que là, tu parles d'un bug logiciel, mais un logiciel est un outil de travail qui, bah, comme l'a dit tout à l'heure nos invités, le sujet principal, on peut avoir des bugs. Et comme tu l'as dit, visiblement, donc l'affaire date de 1999. Une analyse, enfin, une expertise a été menée en 2012. Donc au début de l'affaire, aucune analyse ou aucun audit du logiciel n'a été fait. Et finalement, on a cru. La direction de la Poste et les juges, surtout, qui ont pris la décision d'envoyer des gens en prison, ont cru ce logiciel sur parole. Donc finalement, c'est plus un scandale, quelque part, judiciaire qu'un scandale informatique. Quel est ton avis là-dessus sur la question ?
Oui, en soi, qu'un logiciel ait des problèmes, je crois que c'est vraiment très, très courant. Ça doit être intégré dans la réflexion sur un logiciel. Surtout, on a beau le tester, le jour où on le met en production, on le déploie massivement sur des milliers et milliers d'agences, c'est sûr qu'il y aura des problèmes qui n'ont pas été prévu au moment de la conception. Donc personne ne prétend déployer un logiciel propre au premier clic. Donc il y a un problème. Le logiciel lui-même, de toute façon, le logiciel n'est qu'un outil, effectivement. S'il n'est pas intelligent, le responsable, c'est la réaction. Je veux dire, il y a des erreurs. Au lieu de se poser la question, bah, peut-être que ça vient de nous. Non, les erreurs, tout de suite, ont été imputées aux personnes, aux gérants.
Et d'autant plus qu'on peut rajouter qu'en plus que tu as parlé tout à l'heure de cynisme, j'ai regardé un petit peu les articles de presse que tu cites et il y a un des articles de presse indique, j'ouvre les guillemets, la Poste britannique a soutenu que les erreurs ne pouvaient être pas dues au système informatique tout en sachant que c'était justement le cas. Il est en effet prouvé que le service juridique de la Poste savait que le logiciel pouvait produire des résultats inexacts avant même que certaines des condamnations ne soient prononcées. Donc là on arrive vraiment dans un scandale. Je crois d'ailleurs que là-bas c'est le plus gros scandale judiciaire qui existe parce que ça concerne énormément de gens.
Oui, tout à fait. Il y a au moins plus de 500 personnes concernées, beaucoup de vies brisées, des gens qui ont eu beaucoup de mal à s'en remettre après ça. Parce que c'est effectivement, c'est comment faire la preuve de son innocence. Là, on est normalement, on est jugé, on est d'abord, il y a présomption d'innocence, on est d'abord innocent puis coupable. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est coupable d'entrée de jeu parce que le logiciel a dit vous l'étiez.
Comme le dit Étienne sur le salon web, c'est une vraie question de la valeur de la preuve.
Oui.
Mais écoute, merci pour Vincent cette chronique. J'espère que la prochaine sera un peu plus guillerette. Donc celle sera en juin, je pense. Hein. Je te souhaite une belle fin de journée.
Oui. Merci.
Nous approchons de la fin d'émission. Elle ne se termine pas. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, samedi 23 avril 2022, il y a plusieurs fêtes d'installation en France. Une fête d'installation, c'est un événement physique qui permet de trouver de l'aide pour installer un système libre ou des logiciels libres sur sa propre machine, ou à les configurer si ces logiciels sont déjà installés. Donc, sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, vous pouvez trouver les fêtes d'installation. Il y en a une à Mérignac, en Nouvelle-Aquitaine, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, à Châteauneuf-du-Faou, en Bretagne, et sans doute dans d'autres régions. Vous allez sur l'agendadulibre.org. Autre annonce, la licence pro, professionnelle administration et développement de systèmes d'information à base de logiciels libres et hybrides, qui a ouvert en septembre 2016, ouvre de nouveau ses portes à l'université de Bordeaux à la rentrée 2022. Cette licence professionnelle vise à former les étudiants et étudiantes à intégrer les logiciels libres et hybrides dans un ensemble cohérent répondant aux besoins des entreprises, un système d'information complet par exemple. Il s'agit également de s'impliquer dans les communautés de développeurs et développeuses de logiciels libres pour remonter ou corriger des bugs, contributions ou fonctionnalités. C'est tout l'objet du projet tutoré qui pourrait d'ailleurs concerner des logiciels comme GIMP ou Inkscape dont on a parlé. C'est une licence professionnelle en un an. Elle est ouverte aux licences L2, DUT, BTS en formation initiale et en alternance, mais aussi en formation continue, reprise d'études et contrat professionnel. On peut faire une VAP, validation des acquis professionnels pour l'inscription. Des VAE, validation des acquis de l'expérience sont également possibles. Donc vous retrouverez les références sur le site de l'émission libreavoue.org sur cette licence professionnelle administration et développement de systèmes d'information à base de logiciels libres et hybrides. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Véronique Bonnet, Marc-Jean Mougin, Jehan Pagès, Vincent Calame. Cette 139e émission a été mise en onde et réalisée par Étienne Gonu. Merci Étienne. Cette émission sera bientôt disponible en réécoute sur causecommune.fm et libreavoue.org grâce aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel-Gérondon, Languin, Olivier Grieco, Quentin Gibault. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, à aller faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Je ne sais pas ce que vous ferez dimanche 24 avril à 20h, mais quel que soit le résultat, rien ne sera perdu. Il faudra continuer à se mobiliser, à s'organiser pour construire une société libre, juste, émancipatrice et inclusive. La participation des structures du logiciel libre est un moyen, mais il y a bien d'autres combats. N'hésitez pas à rejoindre des associations. Faisons en sorte que l'avenir soit rempli d'espoir et d'énergie positive dans le respect des libertés, des égalités, des solidarités. Rendez-vous en direct mardi 26 avril 2022 à 15h30 ou en podcast où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Notre sujet principal portera sur France Nature Environnement et la contribution à la vie du Césaire Occitanie. Comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires, le Césaire étant le conseiller économique et social et environnemental régional. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 26 avril et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune.